Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à tous à l'écoute de Mélomanie, votre magazine de l'actualité musicale classique toulousaine et régionale, alors qu'un temps déjà estival s'est installé en ce mois de mai. Justement, la période estivale est celle des festivals et nous allons évoquer l'un d'entre eux en seconde partie de cette émission où j'ai le plaisir de retrouver et de réunir une nouvelle fois les deux Serge, Serge Chauzy et Serge Krichewski. Le premier est cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Le second est oboïste à l'Orchestre National du Capitole, chef de l'Orchestre En Harmonie, membre des Clés de Saint-Pierre et président du festival Musique au Palais. Tous les trois, nous sommes très heureux d'accueillir pour la première fois dans cette émission l'organiste Emmanuel Pellapra, notre invité d'honneur. Emmanuel est également musicologue et c'est un spécialiste et même un expert de l'harmonium, cet instrument assez peu pratiqué mais qu'il pratique assidûment et pour lequel il se passionne. Et il est directeur artistique du festival Classique Cahors, dont l'édition 2022 a lieu du 20 juillet au 3 août à Cahors et un petit peu aux alentours, avec une magnifique programmation et quelques nouveautés. Emmanuel Pellapra va nous en dire plus tout à l'heure. En attendant, nous allons nous replonger dans l'actualité musicale récente. Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Et nous allons tout de suite profiter de la présence des deux Serge pour revenir sur un concert qui a eu lieu le samedi 6 mai à la Halle au Grain, où les musiciens de l'Orchestre National du Capitole, dont Serge Krichewski, retrouvaient une vieille connaissance, le chef américain Joseph Svensson, souvent invité depuis des années à les diriger à Toulouse. Il y avait une seule œuvre au programme ce soir-là, immense, la 9e symphonie de Gustav Mahler. Serge Chauzy, ça a été une grande soirée qui a valu à Svensson et à ses musiciens un véritable triomphe de la part du public.
Absolument, et un triomphe mérité. Bon, il s'agit d'une œuvre totalement géniale, évidemment. Une œuvre qui, d'ailleurs, il avait déjà dirigée en 2011. Il célébrait là l'anniversaire de la mort de Gustav Mahler, le centenaire de la mort de Gustav Mahler. Et donc là, ça a été une reprise. Enfin, Joseph Svensson souhaiter diriger l'ensemble des symphonies de Mahler. Et il a débuté ce cycle en 2002. Donc, ça ne date pas d'hier. C'est une connivence entre le chef
et
l'orchestre.
Sur deux décennies.
Ah oui, exactement, exactement. Effectivement, c'était une soirée magnifique, pleine d'émotions. On sait que la mort imprègne toute l'œuvre, hein, qui part du silence et qui revient au silence. Et en plus, pendant les quatre mouvements de l'œuvre, mouvements très contrastés d'ailleurs, avec une organisation très différente de l'organisation traditionnelle, puisque les mouvements vifs se trouvent au centre, au cœur de l'œuvre. Ça débute par Andante con moto et ça finit par un adagio. Donc, c'est une œuvre extraordinaire. Et ce que j'ai beaucoup, beaucoup admiré, c'est l'implication des solistes instrumentaux, parce qu'il y a énormément de solos d'instruments, certains redoutables. Et c'est un peu, alors c'est pas moi qui ai inventé le terme, mais c'est vraiment une musique de chambre pour grand orchestre. C'est une œuvre extraordinaire. Donc, je voudrais vraiment rendre hommage à, par exemple, un duo entre cor solo et flûte solo, avec Jacques Deleplanque et Sandrine Tilly, un solo de trompette redoutable et en même temps qui doit être raffiné avec Hugo Blacher, qui a fait ça de manière formidable. Vraiment un moment magnifique, avec justement à la trompette, au troisième mouvement, l'apparition de ce thème qui va irriguer tout le dernier mouvement, jusqu'au silence absolu. Et là, on peut dire que cette lente marche vers le néant s'est achevée dans un lourd silence dans la salle qui s'est prolongé, mais vraiment pendant des secondes et des secondes. Et donc, c'était un peu les derniers échos de cette marche vers la mort. Vraiment, une soirée formidable qui a été très apprécié par le chef, qui s'est fendu d'aller auprès de tous les musiciens pour aller les féliciter. Il ne s'est pas contenté de le faire depuis le podium. Il est allé vers les pupitres en question, y compris la contrebasse, ce qui est rare, hein, finalement. Les chefs, en général, font un petit signe aux contrebasses, mais là, il y est allé. Donc, ça a été vraiment une soirée riche en émotions. Voilà ce qu'il faut en retenir. Et donc, j'espère qu'on reverra Joseph Swensen pour d'autres symphonies de Mahler. Il en a déjà dirigé pas mal. Hein,
oui. Œuvre déchirante et crépusculaire. D'ailleurs, le sous-titre du concert, c'était Crépuscule viennois. Alors, voilà. Il y a un lien affectif très fort entre l'orchestre et Joseph Swensen.
Vous voulez
d'en parler, Serge Chosy. Et ça, Serge Krzyzewski va pouvoir nous le confirmer. Parce que, alors, vu de l'intérieur, ce concert, comment vous l'avez vécu, vous? L'émotion était-elle aussi palpable parmi les musiciens?
Difficile de dire, parce que... alors, les musiciens, déjà, ça forme, on va dire, un ensemble très, très composite, hein, puisqu'il y a des gens qui jouent cette symphonie et peut-être même sous la baguette de Joseph Swensen pour la première fois. Et puis, il y en a d'autres qui l'ont pratiqué, comme on dit, beaucoup plus souvent, qui l'attendent, qui ne veulent pas le rater. Donc, l'émotion, elle est à des tas de niveaux pour le groupe, hein, dans le groupe. Globalement, c'est quelqu'un qui rassemble beaucoup, la plupart du temps, tous les suffrages, quasiment tous. Bon, même si il y aurait des choses à dire. C'est plutôt, il faudrait dire les revers de ses qualités qui pourraient gêner. C'est quelqu'un qui est un architecte et qui, en tout cas, qui affectionne notamment les grandes plages sonores, les œuvres longues, les mouvements longs. Et disons qu'il répète, il fait très peu de détails en répétition. Il n'aime pas du tout sectionner comme le font certains qui s'acharnent sur des... Lui, au contraire, il veut garder la ligne, le souffle et il laisse parler la musique... Et voilà, il parle très peu, voilà, mais il y a des gens qui n'aiment pas ça, il y a des gens que ça gêne, bon, voilà. Donc, il laisse la musique parler, véritablement, et il laisse les musiciens parler.
Très musicien, justement, qui d'ailleurs est un virtuose du violon.
Oui, absolument, c'est un très grand musicien. Alors, vous disiez Mahler, mais il est, d'une certaine manière, en tout cas à Toulouse, hein, ce qu'on en a vu, c'est spécialiste de Mahler, mais il est spécialiste de beaucoup d'autres choses aussi. Moi, j'ai un très beau souvenir d'œuvres qu'il avait arrangées de Robert Schumann et de Clara Schumann. Il avait arrangé le scherzo de Brahms de la sonate FAE qu'il avait joué en même temps. Il y a aussi un concert où il a joué le concerto pour violon, le 3e ou 4e de Mozart, et où on faisait la 5e de Schubert après, qu'il dirigeait, bien sûr. Voilà, il y a beaucoup d'émotions très variées avec ce chef qui est aussi compositeur, d'ailleurs. Voilà. Mais personnage extrêmement riche et un peu ésotérique. Il a ce côté-là que certains adorent, que d'autres même moins. Et...
Nous avons la chance de pouvoir vous faire écouter un extrait de cette 9e symphonie de Gustav Mahler, interprétée par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Joseph Swensen, le 4e mouvement Adagio. le quatrième mouvement Adagio de la symphonie numéro 9 de Gustav Mahler, enregistré lors du concert de l'Orchestre National du Capitole le 6 mai dernier, dirigé par Joseph Svensson. Prochain rendez-vous avec l'Orchestre du Capitole le 26 mai à 20h à la Halle au Grain, avec un programme britannique et des œuvres de Benjamin Britten et Edward Elgar. Nous n'allons pas quitter les musiciens de l'Orchestre National du Capitole, puisque le lundi suivant, le 9 mai, à Saint-Pierre-des-Cuisines, 6 d'entre eux donnaient le dernier concert de la saison des Clés de Saint-Pierre pour une soirée et un programme dédié entièrement à Ludwig van Beethoven. Il était d'ailleurs intitulé « Du côté de chez Ludwig ». Nous étions tous les deux, Serge Chosy, présents à ce concert et on s'est régalés. C'était beau, c'était original, c'était très bien interprété, ça va sans dire, et en plus, c'était drôle.
Oui, il y avait tout ça. Alors ça commençait très sérieusement, mais avec souplesse, avec ce quatuor numéro 7, en fa majeur, hein, le premier de la série des trois partitions que Beethoven a dédiées au prince Razumovsky, puisque ces trois quatuors portent son nom d'ailleurs. Et donc c'est vraiment une œuvre majeure et qui a été interprétée par trois musiciennes et un musicien, excellent, avec Laura Jaillet, Alexandre Dalbigo au violon, Laura Esminger à l'alto et Aurore Dassès au violoncelle. Et alors, d'abord, ce qui étonne, pas étonne, parce qu'on est au courant maintenant, c'est la précision absolue du jeu, l'équilibre entre les voix, qui autorise néanmoins une personnalisation des timbres, des sonorités. Donc c'est vraiment c'était un très grand moment, avec en particulier la rondeur sonore du violoncelle, et puis la finesse et la pureté du timbre du premier violon. Voilà ce que j'ai admiré.
Laura Jaillet, magnifique.
Ah, magnifique, ouais. Magnifique. Et on peut dire que l'adagio, molto immesto, hein, l'adagio, a constitué vraiment un sommet d'émotion et d'expression. Donc un grand moment, vraiment un très beau moment. Et puis ensuite, il y a eu une œuvre, alors beaucoup plus rarement donnée, une œuvre de jeunesse, hein, Beethoven avait 25 ans, lorsqu'il a composé ce
sextuor.
Sextuor en mi bémol majeur pour deux corps et quatuor à cordes. Alors c'est bon.
Formation originale.
Hein. Formation pas très courante. Et ça a été composé donc en 1795. Et là, on a vu arriver, vraiment, rejoindre le quatuor à cordes, Jacques de Leplanc au corps, et son complice François Lugue, donc, et tous les deux ont accompagné dans leur voyage, en quelque sorte, les membres du quatuor à cordes. Alors, il faut quand même préciser que, ne serait-ce qu'au tout début du premier mouvement, il y a des traits redoutables pour le corps, pour les deux corps. Il s'envoie à la figure, on peut dire, des notes très rapprochées. C'est vraiment très difficile. Et ils ont fait ça avec beaucoup de panache, avec un bel équilibre dans l'adagio. Et puis, alors dans l'adagio, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est cette saveur des petites dissonances qui est entre les corps. Dissonances qui se résolvent immédiatement, mais c'est vraiment, ça a une saveur particulière. Ça a été très bien fait. Et puis, là, les choses ont un peu changé en ce sens que, comme l'a dit la présidente des Clés, Edwige Farenc, c'était une cerise sur le gâteau, en quelque sorte. On a eu même droit à la chantilly sur la cerise sur le gâteau, puisqu'on a vu donc, les mêmes musiciens, mais au début, on n'a pas vu Jacques de Leplanc, et puis il est arrivé après, donc vêtu d'un ciré jaune, avec
un marin pêcheur.
Oui, avec un corps improbable, constitué d'un tuyau d'arrosage auquel il a fixé un entonnoir en guise de pavillon. Donc c'était vraiment un corps particulier. Et ma foi, malgré ça, il a joué.
Il a joué le Beethoven sur cet instrument ?
Non, presque juste. Enfin, non. Alors il a joué un arrangement tout à fait iconoclaste de plusieurs œuvres, plusieurs thèmes de Beethoven. Et c'était un arrangement qui était donc signé de Jean-Pierre Bouchard, qui est corniste lui-même, hein, qui malheureusement n'était pas là ce soir-là, mais vraiment c'était savoureux. Et donc on a eu droit. Alors l'œuvre d'abord s'appelle au pluriel Plaisanterie musicale autour de Beethoven pour deux corps et quatuor à cordes. Et donc on a d'abord vu François Lugue qui est venu déclamer ou peut-être délirer autour de sa tante Élise.
Donc on se demande de qui pouvait parler. Oui, hein. On ne voit pas le rapport avec Beethoven et Élise.
On a compris. Et donc, là, on a entendu des thèmes aussi divers que ceux de la sonate au clair de lune, de la cinquième, on a eu droit au pom-pom-pom-pom, et puis la symphonie pastorale, et même Ennio Morricone.
Oui, une musique de film, il était une fois dans l'Ouest.
Voilà, exactement.
Le moment du duel.
Et puis, on a entendu le joyeux anniversaire. Alors, en fait, ce concert, il était prévu pour les 250 ans de la naissance de Beethoven.
Oui, alors ça, peut-être que Serge Krzyzewski, qui est membre des Clés de Saint-Pierre, peut nous en dire plus. C'est un concert qui était programmé fin 2020, quelque chose comme ça, à peu près au moment de l'anniversaire des 250 ans
décembre,
de la naissance.
Oui, c'est ça.
De Beethoven, décembre,
1720,
né le 15 décembre 1770, voilà.
Ouais. Oui, donc, c'est un anniversaire retardé, mais bien célébré, hein, donc, un très beau moment, et il y avait des petits gamins dans la salle qui ont été ravis et qui, à la fin du concert, ont demandé à Jacques Delplanque d'essayer le fameux corps d'arrosage.
Ils ont envie de souffler dans un truc aussi improbable, comme
vous
dites.
Eh ben, des petits gamins de 10 ans sont arrivés à en sortir
un son.
Oui. Donc, un très beau moment, un moment vraiment savoureux.
Oui, qui a joliment clôturé la saison 21-22 des Clés de Saint-Pierre. La prochaine saison a déjà été annoncée, hein, on peut la découvrir sur le site des Clés de Saint-Pierre. On va écouter le premier mouvement Allegro du Quatuor numéro 7 en Fa majeur opus 59 numéro 1 de Beethoven. C'est une petite merveille, en voici une version interprété par le Quatuor Ribben. Le premier mouvement Allegro du Quatuor numéro 7 en Fa majeur opus 59 numéro 1 de Ludwig van Beethoven dans une version interprétée par le Quatuor Ribben. Notez donc que le programme de la prochaine saison des Clés de Saint-Pierre est déjà connu et en ligne sur le site de l'association. Petite virgule musicale avant de retrouver dans quelques secondes Serge Chosy, Serge Krzyzewski et Emmanuel Pellapra, notre invité d'honneur. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. À tout de suite.
Mélomanie. L'agenda.
L'agenda de Mélomanie avec Serge Chosy, Serge Krzyzewski et donc avec l'organiste musicologue Emmanuel Pellapra, directeur artistique du Festival Classique à Cahors. L'édition 2022 se déroule du 20 juillet au 3 août à Cahors. Et autour, nous allons vous présenter la programmation qui est encore de grande qualité cette année. Il y a aussi pour la première fois une académie de chœur qui va être dirigée par Michel Picmal du 26 au 31 juillet à Cahors et plusieurs projets discographiques du festival que nous allons évoquer avec vous, Emmanuel Pellapra. Tout d'abord, un petit mot sur Classique Cahors, manifestation que vous avez fondée et que vous co-dirigez avec votre épouse, la soprano et professeure de chant Sonia Sempere-Pellapra. Quel est l'esprit de ce festival? Qu'est-ce qui le distingue des autres? Quelle est sa spécificité?
Alors, je ne sais pas s'il se distingue beaucoup des autres, mais en tout cas, nous, on a à cœur de programmer des choses le plus variées possible. C'est-à-dire, contrairement à certains festivals qui font, par exemple, des festivals à thème, nous, on s'impose pas de thème. Et donc, vraiment, on brasse la musique du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Et en proposant à la fois aussi, dans les interprètes, des choses variées, on fait venir des stars, on fait venir des musiciens locaux, on fait venir des jeunes talents. On essaie d'être le plus large possible et de même pour le répertoire. À la fois, nous programmons des pièces très connues, un exemple, Requiem de Forêt cette année, mais aussi des pièces qui sortent de l'ordinaire, voire qui sortent des cartons des compositeurs et qui n'ont jamais encore été jouées.
Oui, et ça, la programmation que nous allons détailler avec vous en témoigne. Dans quels lieux sont donnés les concerts? C'est important de préciser aussi.
Alors, là aussi, on investit le plus de lieux possible. Si je peux dire à Cahors, il y a un petit défaut, c'est qu'on n'a pas une grande salle de concert vraiment dédiée, je veux dire pour accueillir beaucoup de monde. On a un très bel auditorium, mais de 300 personnes. Et notamment, là où on était le plus embêté, c'était pour accueillir l'orchestre du Capitole qui nous suit depuis le début. Et on les recevait jusqu'à présent à la cathédrale, qui est un lieu magnifique, qui fait partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, mais voilà, qui n'est pas idéal au point de vue acoustique, à deux coupoles. Et donc cette année, nous changeons et nous les invitons dans un nouvel auditorium qui a été construit juste à côté, la salle La Prade, à Pradines. Et donc ils vont inaugurer cette salle avec ce concert d'orchestre, et c'est d'une capacité qui est plus à même d'accueillir les mélomanes du Capitole, puisqu'il y a 500 personnes à peu près, et avec dans une acoustique beaucoup plus adaptée. Sinon, il y a les églises d'autres églises de Cahors, la cathédrale, bien sûr encore, et puis nous allons de plus en plus à l'extérieur des villages
autour de Cahors,
absolument. Ouais, ça fait partie aussi de notre souhait de faire découvrir les sites.
Il y a un petit aspect patrimonial
absolument, puis même culinaire, pas tous les concerts, bien sûr.
Dans le Lot, il ne faut pas passer à côté de ça. Non, sinon.
Donc, on allie tous les plaisirs de la bouche, des oreilles et puis des yeux.
Un mot aussi peut-être sur la politique tarifaire, parce que ça, pour les gens qui nous écoutent, souvent, ça peut être quand même quelque chose qui rentre en ligne de compte. Je crois que vous essayez de rendre ça accessible tout de même à toutes les bourses.
Ça fait partie de notre priorité, parce que c'est vrai que ça coûte cher d'organiser un festival, qu'on n'a pas de subventions
colossales.
Ouais. Non, on est soutenu, hein, mais donc, et puis notre souhait, c'est aussi d'être le plus indépendant possible, mais donc, vraiment, notre but, c'est de ne pas absolument pas faire de bénéfices, on passe tout dans la programmation et donc on pratique les tarifs les plus bas possibles. On a conscience que ça pourrait être mieux et que certaines personnes, ça reste difficile pour certaines personnes, mais si vous regardez par exemple des concerts avec William Christie par exemple, on arrive à faire des tarifs au-dessous de 30 euros alors qu'à côté il peut passer à 50-80 euros, donc vous voyez
ça reste accessible compte tenu de la qualité de ce que vous proposez. La programmation en 2022, il y a beaucoup de grands rendez-vous, et ce, dès le concert d'ouverture mercredi 20 juillet à 21h en l'église du Sacré-Cœur de Cahors, où vous présentez, vous venez d'en parler, un duo qui réunit l'ancienne et la nouvelle génération du baroque, William Christie, le grand William Christie au clavecin, en duo avec le violoniste Théotime Langlois de Svard, dont on entend de plus en plus souvent parler.
Oui, le très jeune violoniste, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est de voir aussi ce mélange de générations.
Cette transmission, William Christie est très attaché à la transmission.
Absolument. Et là aussi, pour des découvertes, ils ont enregistré du Sénayer, compositeur baroque français, et du Leclerc, des sonates qui sont pas souvent données. Donc ça va être une découverte, même si on connaît déjà un peu les artistes, ça va être une découverte à tout point de vue.
Ces deux compositeurs dont vous parlez, alors Leclerc, on connaît un peu.
Oui.
Senayer, je ne sais pas si vous connaissiez l'un et l'autre, les deux Serge, là, moi j'ai découvert.
Pas du tout.
Oh non.
Même le nom ne vous disait rien.
Non.
Alors c'est vraiment la même époque, Leclerc et Senayer, je crois,
Oui, c'est la fin du baroque français.
Et c'était eux-mêmes des virtuoses du violon.
Absolument.
Un peu les Paganini français de l'époque.
Oui.
Donc ce sont des sonates. Théotime Langlois de Svard, il faut qu'on dise quelques mots, parce qu'il est de notre région, en fait, hein, je crois qu'il est de Perpignan, mais il est passé par le conservatoire de Toulouse.
Alors je crois, puis surtout il a des attaches dans la région, maintenant assez près de Cahors, familialement. Et donc, c'est quelqu'un qu'on a vu déjà, qu'on a accueilli deux fois.
Avec le consort.
Avec le consort, absolument. Ouais,
parce qu'il joue dans beaucoup de formations.
Oui. Il est très polyvalent.
Et très demandé.
Très talentueux. Et toujours dans des programmations originales aussi. Donc voilà, ça correspond complètement à l'ADN du festival.
Programme baroque français, deux sonates de Jean-Marie Leclerc et Jean-Baptiste Senaillet. Je propose qu'on écoute un extrait de ce programme de William Christie et Théotime Langlois de Zwart, la sixième sonate en sol mineur du livre 1 de Jean-Baptiste Senaillet. C'est vraiment superbe cette musique, la sixième sonate en sol mineur du livre 1 de Jean-Baptiste Senaillet, interprétée par William Christie et Théotime Langlois de Zwart. Donc c'est très beau, c'est très bien joué, là aussi il va sans dire. Et ça c'est le genre d'œuvre qu'on n'est pas habitué à entendre en concert, et c'est typiquement dans l'esprit de ce que vous disiez tout à l'heure, cet esprit du festival de faire découvrir aussi, ou redécouvrir.
Je crois que c'est peut-être la différence entre les festivals qui sont... Enfin, beaucoup de festivals sont gérés par des directeurs artistiques musiciens, hein. Mais c'est vrai que quand on est musicien, je crois qu'on aime découvrir avant tout la musique qu'on ne connaît pas aussi. Alors on aimerait entendre aussi certaines œuvres, ça je crois, et puis c'est une demande du public, mais c'est vrai que cette curiosité c'est fait partie vraiment de ce qui peut animer un musicien tous les jours.
Je pense que personne ne se plaindra d'entendre ça en concert. Vraiment. Le concert suivant, encore donc beaucoup de rendez-vous de prestige. Le suivant, c'est l'ensemble La Rêveuse, qui commence à faire plus en plus aussi souvent parler de lui. C'est la première fois que vous les invitez ?
Oui. Et
c'est donc le samedi 23 juillet.
Ça fait partie de ces jeunes ensembles qui fleurissent actuellement et qu'on se réjouit de promouvoir. Et j'ajoute, donc ils vont faire un programme autour de la musique anglaise baroque. Et c'est un concert qui est en partenariat avec le Festival Radio France. Voilà, exactement, avec qui nous travaillons depuis 3-4 ans maintenant, main dans la main, et c'est vraiment un partenaire précieux pour nous, et notamment qui nous donne l'occasion d'être transmis aussi à France Musique certaines années.
Voilà, donc parce que c'est le Festival Radio France Occitanie Montpellier, mais il ne faut pas oublier l'Occitanie. Non, ça diffuse vraiment, même loin de Montpellier, la preuve. Hein.
Dans toute l'Occitanie.
Donc soutenu par la région, le samedi 23 juillet à 21h, toujours à l'église du Sacré-Cœur de Cahors. Rendez-vous suivant, alors ça, on change d'époque là cette fois-ci, on arrive à une époque plus moderne, le concert du Quatuor d'Utilleux. Alors il y a des Toulousains dans ce Quatuor, c'est le dimanche 24 juillet, donc le lendemain de l'ensemble La Rêveuse, à l'auditorium du Grand Cahors dont vous venez de nous parler. C'est la première fois que vous aurez des concerts dans ce lieu.
Non, on a déjà fait des, notamment avec Serge.
C'est Prague, le nouveau. Oui, pardon. Oui.
Mais c'est un auditorium comparable. Et les deux Toulousains dont vous parlez, désolé de ne pas citer tout le monde, mais c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas parler de Guillaume Chilem et Thomas Durand. Thomas est vraiment un ami. Ce quatuor est assez... Il y a quelques années qu'ils l'ont fondé. Et malgré le nom du Tilleux, ils vont jouer de la musique romantique pour Schubert, Mendelssohn et le quatuor de Ravel, un peu plus tardif. Et la nouveauté, alors par contre ça c'est très nouveau, il y aura une dimension pédagogique puisqu'ils vont faire une masterclass, donc avec un concert gratuit aussi le lundi 25 juillet.
Dans la matinée.
Oui, c'est ça. Et là, ils accueilleront des grands étudiants du conservatoire de Toulouse et ils donneront l'octuor de Mendelssohn, donc à 8, deux quatuors à cordes réunis pour cette œuvre magnifique d'un compositeur, je crois qu'il avait 16 ans quand il a écrit ce chef-d'œuvre absolu de l'histoire de la musique.
Ouais, on l'a entendu au Clé de Saint-Pierre, d'ailleurs.
Exactement, et vraiment, je voudrais souligner la qualité de ce jeune quatuor. Hein. C'est de toute beauté.
Guillaume Chilem, Thomas Durand, excellent musicien, formé eux aussi au conservatoire à rayonnement régional de Toulouse. Et puis, ils font une très belle carrière.
Hein. Et d'ailleurs, à Toulouse, ils avaient joué le quatuor de Du Tilleux.
Oui, la nuit. Mais à Saint-Pierre des Cuisines, ils ont joué récemment le quatuor de Ravel aussi.
Je crois qu'ils n'ont pas pris le nom au hasard. Ils ont une dévotion pour Du Tilleux.
Ben, on les comprend.
Absolument.
Le lendemain, le 25 juillet, alors là, cette fois-ci, c'est bien à cette nouvelle salle, à Pradines.
Voilà, et donc qu'on va entendre pour la première fois l'Orchestre du Capitole. L'année dernière, on a quand même fait un essai, on a fait une première expérience avec le pianiste Kantorov, qui est venu jouer un magnifique concert Brahms. Et donc, on a pu s'apercevoir vraiment de la qualité de cette salle. Et donc, c'est avec plaisir qu'on a pu proposer enfin un lieu digne de ce nom. En tout cas, je parle acoustiquement parce que la cathédrale est magnifique. Mais pour l'orchestre, ça sera quand même plus agréable et pour le public d'entendre l'orchestre dans ce lieu. Et on entendra la symphonie numéro 5 de Schubert avec le concertino pour cor anglais de Donizetti.
Alors là, voilà une œuvre, encore une fois. Moi, je ne l'ai jamais entendu en concert. Je ne sais pas si Serge Kleschinski a eu l'occasion de... Voilà.
Non, en concert, après, il y a les opéras Donizetti qu'on connaît.
Si
je dis ça, c'est que si on connaît plus les opéras que le concertino pour cor anglais, c'est qu'il y a peut-être une raison.
Il y aurait des raisons, vous voulez dire.
Après, c'est un instrument magnifique.
Est-ce qu'il y en a beaucoup des concertinos?
Il y en a quelques-uns. Il y a notamment une pièce magnifique qui est... Alors, encore beaucoup moins joué, parce que le compositeur, en général, est beaucoup moins joué, malheureusement. Arthur Honegger, concerto da camera pour flûte et cor anglais, qu'il a écrit à la fin de sa vie. Mais c'est vrai que non, il y a des pièces, une pièce de Reicha pour cor anglais, à la même époque.
Précision importante, c'est votre camarade de pupitre, Gabriel Zanneboni, qui sera au cor anglais. Et on en dit souvent du bien, Gabriel Zanneboni.
Vous allez pouvoir en dire musicienne. Du bien. Ouais. Absolument.
Voilà, donc ça c'est le lundi 25 juillet, donc à cet nouvel auditorium de Pradines, l'Orchestre National du Capitole, Gabriel Zanneboni, la symphonie numéro 5 de Schubert, et donc le concertino pour cor anglais de Gaetano Donizetti. Ensuite, ça passe au mercredi 27 juillet, 21h, on revient à l'église du Sacré-Cœur de Cahors, et on va entendre un duo, guitare-mandoline, c'est pas courant non plus, avec... un musicien qu'on connaît bien, n'est-ce pas Emmanuel ?
Oui, Julien Martineau, qui est toulousain et qui donc fait la promotion de la mandoline. Moi, ce qui me séduit dans cette affiche, c'est à la fois donc le programme qu'ils vont faire, qui va être original, puisqu'on va aller de Scarlatti à Piazzolla. Là, on est forcément dans l'adaptation, dans les arrangements, mais c'est une pratique... Que j'approuve grandement parce que ça permet d'entendre des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre en concert et aussi c'est la promotion d'instruments qui sort de l'ordinaire et moi en tant que promoteur de l'harmonium je ne peux être que sensible à cette démarche.
Voilà, Julien Martineau qui joue en duo avec le guitariste Eric Francery et ils vont jouer beaucoup d'extraits d'un CD qui a été enregistré il y a quelques années, Paradis Latin. Donc effectivement, il y a beaucoup de Piazzolla, mais pas seulement. Il y a du Calacci, il y a du Vittorio Monti,
Bartok,
Xardas, les danses folkloriques de Bartok. Enfin, un disque très très agréable. Bon, on écoutait un extrait d'ailleurs de ce CD, Nightclub 1960. C'est un extrait de l'histoire du tango d'Astor Piazzolla. Thank you. Nightclub 1960, extrait de l'histoire du tango et du CD Paradis Latin enregistré par le mandoliniste Julien Martineau et le guitariste Eric Francerie il y a quelques années sous le label Naïve. Le duo est en concert le 27 juillet à 21h à l'église du Sacré-Cœur de Cahors. La suite, c'est le vendredi 29 juillet à 21h à la cour de la préfecture de Cahors. Encore un autre lieu, et là ce sera en plein air, c'est le chœur de l'armée française qui va chanter des chœurs de grands opéras français et italiens. C'est pas commun non plus.
Non, et nouveau lieu aussi pour nous. Donc on est très heureux de les accueillir. Ça diversifie vraiment les passer de la mandoline au chœur de l'armée française.
Au chœur des grands opéras français.
Absolument,
français
italien. Oui.
Alors que là, ça va être, je pense, assez grand public. Hein. Vraiment, il faut y aller, là, parce que ça... Et le lieu doit être magnifique, j'imagine, je ne connais pas.
Oh, bah oui, comme toutes les préfectures 19e.
En général, c'est plutôt des lieux très, très agréable.
L'ancien évêché, d'ailleurs, je crois, comme à Toulouse.
Oui. Le dimanche 31 juillet, alors, ce sera l'église Saint-Barthélemy de Cahors, encore une autre église. Et là, c'est le début du... Ça sera le concert, pardon, de l'Académie de chœur avec orchestre. Ce sera le Requiem de Forêt. On va parler de l'Académie, mais bon, juste le programme. Donc, le Requiem de Forêt par un chœur qui va le travailler pendant les quelques jours de l'Académie. Donc, c'est un challenge à relever pour eux.
Ah oui, puisque alors c'est pour ça que ce sont des chanteurs de bons mélomanes qui vont s'inscrire, mais ils ont effectivement quelques jours pour monter le Requiem, donc ils l'auront étudié à l'avance. Et j'ajoute que on donnera aussi la messe des pêcheurs de Villerville, de Forêt Messager, qui va compléter ce Requiem qu'on connaît bien et un petit peu moins la messe. Formation de chambre, et puis je précise que c'est la version de 1893 que l'on donnera, c'est-à-dire une des premières versions du un peu compliqué, oui. Du Requiem de Forêt, mais c'est la première, le premier aboutissement du Requiem de Forêt avant les versions plus tardives que l'on connaît plus.
Donc là aussi, c'est original de ce point de vue, parce que c'est pas la version qu'on entend le plus en concert, évidemment.
C'est vrai, mais on l'entend de plus en plus. Et donc, un petit exemple, il y a un seul violon dans cette version, et l'orchestre de cordes est composé d'alto, de violoncelle et de contrebasse, donc avec une dimension beaucoup plus grave dans les cordes.
Alors, on reviendra à l'Académie de chœur tout à l'heure, un peu plus tard, plutôt dans quelques minutes. Lundi 1er août, 21h, là vous vous déplacez au château aux pêches de Jamme. C'est le vignoble Flo-Jacques Poujol. Il y a un concert avec buffet dînatoire, s'il vous plaît.
Oui, on essaie depuis 2-3 ans, donc c'est ce que je vous disais, d'allier la gastronomie puis les concerts. Et c'est une formule, on ne va pas se cacher, dans le sud, qui marche assez bien. Donc, en plus, le groupe s'appelle Agua et Vigno. Donc,
c'est pas pour l'occasion, c'est vraiment le nom du groupe.
Ah oui. C'est aussi pour ça qu'on l'a fait
mais
avec
c'est
eux.
C'est eau et vin, donc c'est avec modération.
Mais voilà, mais avec un programme...
Donc c'est guitare. C'est pas l'eau dans le vin.
Non, a priori, non, mais c'est l'un après l'autre.
Ça dépend des gens.
Mais c'est un duo de guitare. Hein.
C'est un duo de guitare, oui. Très original. Là aussi, avec évidemment pas mal de transcriptions qu'ils réalisent eux-mêmes. Et puis, vraiment un programme très varié entre musique classique et puis de musique de film.
Musique brésilienne aussi.
C'est ça. Vraiment, c'est une invitation au voyage.
C'est assez festif aussi, je pense.
Oui,
enfin, voilà, des paysans. Il y aura du soleil. A priori, il y aura du soleil, on l'espère, en tout cas, le 1er août. Deux jours après, le mercredi 3 août, toujours à 21h, là, c'est la cour du musée, non pas de la préfecture, la cour du musée ou cour de l'archidiaconé, c'est ça ?
Oui, c'est la cour de la attenante au cloître de la cathédrale, qui est un lieu vraiment très recherché des cadurciens, parce que c'est vraiment très agréable. Elle est entourée de murs, donc on entend vraiment très bien. Et ça, c'est un de nos deux grands rendez-vous annuels.
Oui, parce que c'est un grand pianiste.
Oui, oui. Mais c'est vrai qu'on tient chaque année, dans la mesure du possible, à avoir l'orchestre du Capisol et notre récital de piano. Et donc là, c'est Laurent Cabasso, le grand pianiste français, qui jouera...
Des toccatas de Bach.
Des toccatas de Bach. Il vient d'enregistrer l'intégrale, oui. Il y en a 7. Oui. Là, il en jouera 3 ou 4. Et de la musique de Schubert, des impromptus, donc, qui rend très bien avec ces pièces de Bach.
Et ce sera le concert de clôture de l'édition 2022 de Classique à Or. Encore vraiment un concert de prestige dans un lieu splendide. Pour conclure ce survol de la programmation de Classique à Or 2022, je propose d'écouter Le Cœur de l'armée française, dirigée s'il vous plaît par la lieutenant-colonel Aurore Tillac. Et oui, les femmes sont à l'honneur en ce moment, même à l'armée. Ils chantent Le Cœur des courtisans de Rigoletto, le célèbre opéra de Giuseppe Verdi.
Thank you.
Le chœur des courtisans de Rigoletto, l'opéra de Giuseppe Verdi, chanté par le chœur de l'armée française sous la direction de la lieutenant-colonel Aurore Tillac. Le chœur de l'armée française va chanter des chœurs de grands opéras français et italiens, comme celui-ci, vendredi 29 juillet à 21h à la cour de la préfecture de Cahors. Et puis donc j'en reviens à cette fameuse académie de chœur du festival du 26 au 31 juillet. C'est la grande nouveauté du festival 2022. Elle est dirigée par Michel Picmal. Alors, présentez-nous ce grand pédagogue, grand chef de chœur, très connu dans le milieu du chant choral, et cette académie qui s'adresse donc à des amateurs confirmés tout de même.
Oui, Michel Picmal, c'est aussi un baryton qui a fait une grande carrière de chanteur, mais c'est vrai qu'il est surtout connu comme chef de chœur et d'orchestre. Et pour moi, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, parce qu'il a, c'est quelqu'un qui s'est intéressé aussi à la musique qui sortait des sentiers battus. J'ai en tête par exemple un disque Roparts absolument magnifique. Donc c'est quelqu'un qui recherche des choses sorties des sentiers battus. Voilà, donc on s'est rencontré aussi grâce à ça. Et notre volonté d'élargir le festival à une académie de chœur et plus tard d'orchestre est inaugurée avec lui, donc grande figure française. Je précise une chose très importante, c'est qu'il sera là toute la durée de la semaine et que c'est lui qui va préparer les chœurs. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il va arriver juste pour le concert et diriger. Non, c'est lui qui prépare le chœur. Et je précise aussi une chose importante, c'est que certes on demande que les choristes qui veulent s'inscrire soient connaissent ça est déjà une expérience, mais c'est pas non plus, on ne fait pas appel à des professionnels. Hein. Certains n'osent pas s'inscrire, en discutant, on s'aperçoit de ça. Donc n'hésitez pas, si vraiment vous avez envie de travailler le Requiem de Forêt avec un grand chef dans une belle ville, n'hésitez pas à vous renseigner, allez sur internet, vous tapez Académie de Chœur Classique à Or tout attaché, et n'hésitez pas à vous inscrire, vraiment on vous accueillera avec plaisir.
Oui, alors une semaine qui allie le travail de la voix et du corps. Hein. La technique vocale est intégrée dans les activités quotidiennes. Il y a même de la sophrologie. Il y a des visites en fin de journée du patrimoine cadurcien.
Et concerts, évidemment, gratuits pour les membres de l'académie qui pourront bénéficier de tous les concerts pendant la durée de leur travail.
Et en plus, les séances de technique vocale sont assurées par Sonia Sempere-Pellapra. Vous rendez compte de la chance que
c'est
vous avez.
C'est dire si ça sera sérieux.
Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, il y a d'autres nouveaux projet pour Classique Cahors discographique, ceci en marge du festival, très ambitieux. Hein. Il concerne d'une part la musique de chambre avec harmonium, l'harmonium de Camille Saint-Saëns, et d'autre part, vous vous intéressez au compositeur franco-italien Cesare Galeotti. Alors, c'est un des nombreux élèves qu'a eu César Franck. Il y a 3 enregistrements de CD consacrés à sa musique pour piano, sa musique de chambre et son œuvre vocale qui sont prévus.
Voilà, on en a déjà réalisé un, celui pour piano. Alors, je précise que chez César Franck, il y a les élèves officieux et les officiels. Lui, là, et c'est très clair, il a été son élève au Conservatoire de Paris, il a eu un premier prix d'orgue. Et si vous regardez les commentaires que faisait César Franck sur ses élèves, c'est peut-être un de ses élèves préférés de ce point de vue-là. C'était quelqu'un vraiment d'immensément doué, qui est arrivé d'Italie en France et qui s'est inscrit au Conservatoire et sorti avec 5 premiers prix à l'âge de 16 ou 17 ans, pianiste hors pair. Mais complètement méconnu, parce que sûrement un peu fainéant, sûrement dans sa recherche de...
Dilettante peut-être, dilettante.
Oui, mais pourtant il a joué avec les plus grands, avec Isaïe, avec Saint-Saëns, et reconnu par tout le monde. Il a écrit 2 opéras, dont l'un dirigé à la Scala par Toscanini, et à la Monnaie de Bruxelles, c'est dire s'il a vraiment compté. Donc on essaie de le remettre au goût du jour. Et puis l'autre projet, bon, c'est le grand compositeur Camille Saint-Saëns qui a fêté on a fêté l'année dernière les 100 ans de son décès, mais à cause du Covid on n'a pas pu sortir à temps les 3 CD qui composent l'intégrale de la musique de chambre avec harmonium, c'est dire quand même si c'est un pan important de son œuvre, et je crois que c'est le seul avec les opéras qui n'ait pas bénéficié d'intégrale jusqu'à présent. Donc, mais là c'est imminent, entre l'automne et l'hiver prochain nous allons sortir ces 3 CD.
Parlons de l'harmonium rapidement, là, parce que beaucoup de gens, je pense, considèrent l'harmonium comme un instrument d'église. C'est un instrument qu'on voit dans les églises, dans un coin, dont on joue assez peu aujourd'hui pendant les offices. Et à la base, c'est pas du tout un instrument d'église, c'est un instrument de salon.
C'est vrai, mais c'est une image qui est normale, parce que les 9 dixièmes de la production d'harmonium ont fini effectivement dans l'église. Donc c'est une production assez industrielle et pas forcément toujours de qualité. Mais par contre, à l'origine, l'instrument a été créé pour le salon, parce qu'on voulait en fait rendre un orgue expressif, c'est-à-dire capable de nuances. Et ces nuances qu'on fait avec les pieds qui agissent directement sur les soufflets. Donc les nuances pour accompagner un cantique, il n'y a pas besoin d'énormément énormément de nuances. Par contre, pour faire de la musique de chambre avec violon, avec piano, ça c'était très important. Donc c'est un instrument qui a été fabriqué autant que le piano sous le Second Empire, autant que le piano Pleyel par exemple. Il est sorti 300 000 instruments en quelques années. C'était vraiment une production très importante. Donc on redécouvre ce patrimoine à la fois instrumental et musical, et qui nous étonne toujours plus.
Alors, il y a sur le CD 500, il y a la première musique de film qui ait jamais été composée. Elle l'a été par Camille Saint-Saëns pour L'assassinat du duc de Guise, film tourné en 1908 par André Calmette et Charles Barjy. Je propose qu'on en écoute un petit morceau. Musique de Camille Saint-Saëns, composée pour le film L'assassinat du duc de Guise. Vous vouliez ajouter quelque chose, oui, Emmanuel Pellaprat?
Très rapidement, je suis aussi directeur artistique d'une saison d'orgue que l'on fait entre Pâques et la Trinité à Notre-Dame-du-Tort, l'orgue dont je suis titulaire, qui avait été fondée par le regretté Jean-Claude Guidarini. On a un concert tous les samedis à 17h jusqu'au 11 juin, et je voudrais absolument vous signaler le concert du 28 mai, qui est donné par Wolfgang Seifen, professeur d'improvisation en Berlin. Ça va être exceptionnel. Improvisation dans le style de Bach et de Mendelssohn.
Voilà, l'information est passée, et voilà aussi donc pour le Festival Classique Or 2022 et tous les projets qu'il y a autour. Nous allons consacrer les dernières minutes de cette émission à l'annonce de deux concerts à venir cette semaine. D'abord, le récital de la guitariste Gaëlle Solal pour le dernier rendez-vous de la saison Toulouse Guitare, vendredi 20 mai à 20h. C'est à l'église Saint-Jérôme. Alors en fait, le programme, ça va être des extraits, même sans doute l'ensemble de son CD Tuu, je ne sais pas d'ailleurs comment on prononce, vous qui parlez couramment le brésilien, Serge, vous ne savez pas comment on dit, parce que c'est la musique du Brésil, Choros, et beaucoup de Villa-Lobos.
Choros.
Oui, mais Tuu, c'est le titre. Je crois que c'est... Ah pardon, si, je sais, c'était le surnom de Villa-Lobos, ça me revient maintenant.
Ah, d'accord.
C'était le surnom que lui avait donné, je ne sais plus si c'est sa mère, je ne sais pas qui. Voilà, donc c'est beaucoup de Villa-Lobos, de Choros, divers et variés, la musique brésilienne à la guitare par cette excellente guitariste qui est Gaëlle Solal, qui fut la première française à gagner le concours d'Alessandria, c'était en 98, elle a une quarantaine d'années, c'est encore une jeune musicienne. Ben, on va écouter un extrait du programme de son CD Tuu, et donc un extrait du programme de son concert, le deuxième mouvement de la suite populaire brésilienne d'Hector Villa-Lobos, Scottish Choro, joué par Gaëlle Solal. Thank you. Le deuxième mouvement de la suite populaire brésilienne d'Hector Villa-Lobos, Scottish Choro, joué par Gaël Solal, un extrait du CD 2 ou Paris paru en 2020. La guitariste française donne donc le dernier concert de la saison de Toulouse Guitare vendredi 20 mai à 20h à l'église Saint-Jérôme. Il y a comme d'habitude avant son récital une première partie avec un jeune guitariste ou une jeune guitariste invitée. Je ne sais pas qui, vous le découvrirez comme moi puisque je serai présent. Lorsque vous irez écouter ce concert, Serge, vous vouliez aussi nous annoncer un concert qui a lieu la veille, le jeudi 19 mai à 20h30 à la basilique Saint-Cernin de Toulouse, celui des Sacboutiers avec l'ensemble vocal Tempus 21 qui vont donner un programme intitulé « Les 3S ». Qui sont ces 3S ?
Les 3S, ce sont trois compositeurs de la même époque, de la première moitié du XVIIe siècle, qui ont pour nom Heinrich Schütz, Samuel Scheidt et Hermann Schein. Donc, leur nom
faut commence...
Tous par S, il ne faut pas se tromper. Et donc,
Manque Scarlatti.
Oui, il manque Scarlatti.
Mais là, c'est que des Allemands, là.
Ah oui, oui, exactement. Ah, oui. Oui, oui. C'est vraiment germanique. Hein. Musique baroque germanique, hein, importante, hein, puisque vraiment, hein, c'est d'une richesse d'écriture impressionnante, hein, avec des motets, des canzones et des psaumes. Et avec notamment l'œuvre la plus importante et la plus longue, c'est le Musicalische Exequien d'Heinrich Schütz, qui est une messe pour les funérailles d'Henri II. Donc, et ce sera alors joué par l'ensemble des Sacboutiers, bien connus à Toulouse évidemment, et qui sont rejoints par ce chœur, Tempus 21, qui est dirigé par Emmanuel Blondel, et qui est un chœur de chanteurs non professionnels, mais un chœur qui fonctionne sur un mode associatif entièrement bénévole. Mais c'est un chœur de grande qualité, c'est une vingtaine de chanteurs, donc qui chanteront avec les musiciens des Sacboutiers.
Eh bien, voilà encore un programme et un concert très original. Les Sacboutiers, l'ensemble vocal Tempus 21, donnent donc leur concert Les 3S, jeudi 19 mai à 20h30 à la basilique Saint-Cernin de Toulouse. Et ils le redonnent le lendemain, vendredi 20 mai, toujours à 20h30, à la cathédrale Sainte-Cécile d'Albi. Renseignements sur le site www.les-sacboutiers.com. C'est la fin de cette émission à laquelle je remercie mes amis Serge Ozy et Serge Krichewski, les deux Serge, d'avoir participé, de l'avoir co-animé avec moi. Un grand merci aussi à Emmanuel Pellapra d'être venu nous rendre visite et de nous avoir présenté la programmation de Classicor 2022 ainsi que les projets discographiques du festival. Cette édition a lieu du 20 juillet au 3 août à Cahors et un peu à ses alentours. L'Académie de chœur du festival, dirigée par Michel Picmal, se déroule, elle, du 26 au 31 juillet. Le détail de la programmation, tous les renseignements, les réservations et la billetterie sont en ligne et disponibles à l'adresse www.classicaor.com. Je rappelle le dernier concert de la saison Toulouse Guitare donné ce vendredi 20 mai à 20h par Gaël Solal à l'église Saint-Jérôme de Toulouse. Réservation et achat des places en ligne sur le site www.toulouseguitare.fr. Et je rappelle aussi les 8 représentations du Barbier de Séville, l'opéra de Rossini, au Théâtre du Capitole du 20 au 29 mai. Billetterie en ligne sur le site www.theatreducapitole.fr. Tous mes remerciements à Christophe Aubry pour la réalisation de cette émission, dont le podcast est disponible et téléchargeable dès aujourd'hui sur le site de Radio Présence. Je rappelle que Mélomanie est diffusée les mardis à 19h et les mercredis à midi. Merci encore de votre fidélité et très bonne semaine musicale à tous.